La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.
J'ai rien compris, hein. Calé. Excusez-moi. Salut, Marc. Non, je viens de recevoir
ce qui se passe
sur mon courriel. Non, c'est quoi qu'elle dit? Absolument, si la femme est aussi bonne que l'homme, elle mérite le même salaire. C'est exactement ça que j'ai dit.
Oui,
mais
oui,
là,
oui.
Je vous donnerai pas toutes les insultes, là. Elle a pas compris, là.
Qu'il y a quelqu'un qui t'a insulté, puis qui est bon, ça, occupe-toi pas de ça, là.
Non, mais c'est parce que je trouve ça plate quand les gens...
Ouais.
Des fois, pourquoi on de plus en plus, on met des gants blancs, puis tout, parce que le monde, ils comprennent rien. À talent égal, il faut que tu payes, évidemment,
femme et homme. Nuancé, là, j'étais pas trop
clair et net. Ouais. Mais dans une compétition sportive, si, dans, mettons, il y a 20 000 personnes dans le stade pour voir jouer les hommes, puis il y en a 5 000 pour voir jouer les femmes, est-ce que tu dois donner les mêmes bourses? Je trouve que la question est bonne. En plus, j'ai pas trop répondu. Laissez Nathalie répondre.
Ouais, mais c'est que tu poses une question pour laquelle l'économie a déjà répondu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas les moyens de payer quelqu'un, il n'y a pas les moyens. Pourquoi tu penses qu'on donne 10 millions à Crosby? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont dit, hey, moi, c'est 10 millions, on joue ailleurs. Puis il y a quelqu'un ailleurs qui a dit, moi, je suis prêt à te le donner le 10 millions. C'est tout, fin d'histoire.
Dans ce cas-ci, l'économie, elle a répondu qu'ils donnent le même salaire, femmes et hommes, même s'ils n'attirent pas les mêmes revenus, au nom de l'égalité. C'est pour ça que ça se fait, là. C'est au tennis. Elles ont demandé les mêmes bourses, même si le rayonnement et les revenus sont pas les mêmes. Puis elles l'ont.
Je vais te répondre.
Fait que c'est pour ça que je voulais entendre Nathalie là-dessus. Je voulais juste entendre son point de vue. C'est tout.
Mais je suis d'accord avec tout, moi. Je te dis juste que s'ils l'ont eu, c'est parce qu'ils ont les moyens. C'est exactement ton point. C'est-à-dire que c'est une question qui, dans la vraie vie, est répondue par les moyens de le faire. Fait que si tu dis, hey, parce qu'on n'est pas au public, là, c'est pas syndiqué le sport professionnel.
T'as un excellent point.
Tennis,
exact.
Mais c'est ça. Si le tennis est capable de payer les femmes à la parité, c'est parce que le tennis est capable de payer à la parité, c'est tout.
Go. Puis si dans le hockey, ils sont pas capables parce que la ligue féminine, ils sont pas capables. Et voilà. Donc, c'est un peu l'économie qui tranche, mais certains voudraient que ce soit plus le principe d'égalité. Mais bon. Ça commence à être lourd des fois de faire. C'est peut-être moi qui.
Non, mais c'est parce que.
Impatient,
non, mais peu importe l'enjeu, c'est sûr que tu te positionnes dans un coin, dans le coin droit, dans le coin gauche.
Le monde va pas bien. C'est sûr. Il y a aussi que.
Ouais, ben, en même temps, d'être d'accord ou pas sur ces questions-là, why not, là, c'est pas grave. Mm-hmm.
Marc, tu veux nous parler des maisons? Eh bien, du confinement versus. C'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon.
Oui, puis je pense que c'était conditionné au départ, OK? C'est une discussion que j'ai eue encore avec une de mes amies. Et puis, ça va comme suit, puis je veux que vous mettiez un chiffre, parce que moi, je vais mettre un chiffre sur la question que je pose. C'est-à-dire, quel est le pourcentage de votre bonheur au complet, OK, sur une échelle de 100% de « voici ce qui me rend heureux dans la vie », là, c'est quoi le pourcentage qui est relié à votre résidence? Parce que je réalise que c'est énormément relié à la difficulté d'accepter la période actuelle. C'est quelque chose qu'on discute jamais, mais c'est que dans la vie, il y a du monde... que chez eux, la place où ils vivent, ça inclut l'unité comme telle, ta maison, ton appart, ton condo, ou la place, c'est-à-dire je vis à tel endroit dans la ville ou autre, c'est extrêmement moyen ou peu relié à leur bonheur en général. Moi, dans mon cas, je calcule, parce que je veux vraiment qu'on y mette un chiffre, on mette un chiffre, moi, 75%, Sylvain, très honnêtement, je vais t'expliquer après pourquoi, je vais faire comme un bon comptable, je vais ventiler mon montant, 75% de mon bonheur passe par l'endroit où j'habite. 75%.
Tellement d'accord.
Mm. Oui. C'est-à-dire que le 25% qui reste, c'est les activités, c'est le social, c'est etc. Mais je suis tout capable de faire des compromis là-dessus dans la mesure où, je travaille de chez nous. Là, je te parle de moi, là. Après, je suis très curieux de vous entendre. Puis, B, que je me lève là, puis que je me couche là, puis que j'habite là. Pour moi, c'est une priorité absolue. Ce qui fait en sorte que, entre autres, dans mon budget, je respecte pas du tout la norme qui dit qu'il faut accorder, genre, 25%, 30% de son salaire à sa résidence, etc. Moi, je buste ça totalement, parce que de un, étant à mon compte, j'ai des déductions, ce qui fait en sorte qu'il faut calculer. De deux, tout comme dans une entreprise, quand on dit, il faut mettre de l'argent sur la recherche et développement, etc. Moi, dans mon métier à moi, je monte pas des murs du GYPROC ou je rénove pas des habitations. C'est ma tête. Je vis de ma tête, moi. Je vis de ce que je raconte, puis de ce que j'écoute, puis de ce que je lis. Ben, si je suis chez nous, puis c'est le bonheur total, puis que j'apprécie où je suis, ce qui est le cas plus que jamais, parce que, comme je t'ai dit, j'ai acheté en 1er décembre dernier, puis c'est comme, je pensais même pas être logé de même dans la vie, là. Ben, je suis aux anges. Et je réalise, à cause de la discussion que j'ai eue, puis c'est le sujet que je vous amène, puis j'ai bien hâte de vous entendre, qu'il y a des gens, sans calculer, qui aujourd'hui disent, ah, je trouve ça très dur la période actuelle, puis d'autres qui font, ben moi, c'est le contraire. Il y a même des gens qui c'est le contraire. Il y en a pour qui, dépendamment de leur job, de leur univers social, etc., le confinement a amené la capacité, quasiment l'opportunité d'être encore plus chez eux, puis ils sont chanceux. Puis il y en a pour qui c'est la souffrance totale, c'est-à-dire que non seulement ils sont chez eux, puis que là, ils réalisent que, franchement, c'est pas adapté du tout aux conditions, blablabla. Bla, bla. Mais tout ça pour dire que, avant même la pandémie, je crois qu'il y a des gens qui étaient fondamentalement heureux dans leur résidence, puis c'est un gros facteur de bonheur. Puis il y en a d'autres pour qui c'est pas si important. Et je termine, avant de vous écouter, en disant que s'il y a une place où je trouve, dans la mesure où tout à coup tu te questionnes à dire, hey, c'est vrai que chez nous, moi, ça passe, c'est super important dans le fond où j'habite, ben de grâce, ne cheapez pas là-dessus, parce que c'est un facteur époustouflant qui amène, bon, il y a les finances, là, dans un premier temps, mais c'est aussi toute la qualité de vie que ça amène. Si tu es dans le groupe, comme moi, j'appartiens. Alors maintenant, moi, j'aimerais savoir, sur une échelle de 100, vous accordez combien de votre... Là, c'est une question hyper personnelle, de bonheur personnel, on enlève l'investissement de ça, on n'est pas là.
Mais là, je pense qu'il faut juste mettre un petit astérisque avant de répondre à ta question, parce qu'en temps de pandémie, on est juste ça à la maison. Là. On fait juste ça, être à la maison tout le temps. Fait que là, ça prend une proportion beaucoup plus grande. Puis moi, je comprends l'injustice puis l'inéquité envers ceux qui habitent un demi-sous-sol ou un petit 2,5 ou un 1,5. Eux autres, moi, je suis tout le temps à la maison, là, mais il y a quand même de l'espace. J'ai déjà vécu dans un sous-sol, pas de fenêtre, une chambre. T'sais, je louais une chambre à Chicoutimi dans un sous-sol, pas de fenêtre. Alors, si j'avais eu à passer la pandémie là-dedans, là, j'avais un matelas qui était à terre. T'sais, j'avais pas de lit, là. J'avais pas de set de chambre. J'avais un matelas que j'avais mis à terre, puis j'avais une table avec une télé 17 pouces puis un Sega. Avec quoi je jouais là, l'espèce de le petit lapin bleu, là, Sony.
Sonic.
Ouais, j'ai joué à Sonic pendant des mois. J'avais pas le câble. Fait que j'avais Sonic, ma petite TV, puis mon matelas. Si j'avais passé une pandémie là-dedans, peux-tu te dire que ça aurait été différent que... Là, j'ai un cinéma maison, j'ai de l'espace, j'ai de la lumière chez nous.
Je t'entends.
C'est sûr que pendant la pandémie, c'est différent.
Parfait. Je te pose quand même la question, je veux que tu répondes
en
ultra honnêtement. Non, je te pose une question à toi, à Sylvain Bouchard.
Ouais.
Je veux que tu répondes ultra honnêtement. Si tu te reportes à ce moment-là, quand tu étais avec ton matelas à terre, ton Sega, ta TV 17 pouces, étais-tu malheureux ou t'étais heureux?
D'abord, c'est 15 pouces. Je viens de m'en souvenir comme faux. 17 pouces, c'est mon écran d'ordinateur. C'est 15 pouces.
On l'a grossi.
J'étais rendu, j'avais pas moyen.
15 pouces.
C'était une Toshiba grise, je m'en souviens encore.
Autre détail que j'ignorais super important, donc, mais c'est une vraie question.
Non, mais je vais te répondre, parce que moi, je suis pas d'accord avec ton 75, c'est pas pantoute. Moi, c'est genre 20%, l'endroit où j'habite.
Je suis dans la même équipe que toi.
J'étais aussi heureux à ce moment-là qu'aujourd'hui. Moi, j'ai découvert. Parce que pendant toute ma vie, moi, j'étais extrêmement, pas extrêmement, j'étais très pauvre à une certaine partie de ma vie. Puis là, à un moment donné, la radio, ça s'est mis à avoir, je me suis mis à avoir du succès. Donc là, j'ai fait un peu plus d'argent. Donc, j'ai toujours progressé, là. Je sais qu'il y en a qui ont des hauts et des bas, là. Moi, ça a tout le temps été un peu en s'améliorant. Mais je suis pas capable de dire, mon bonheur a suivi exactement le même chemin. Plus mes maisons, mes condos sont beaux, plus j'ai eu des meubles, je suis devenu de plus en plus heureux. Mais zéro pis une barre. Ce qui a fait en sorte dans ma vie que j'étais des fois plus heureux, des fois malheureux. C'est bien plus le métier, c'est bien plus les amis, c'est bien plus l'amour ou ces affaires-là, 100 fois plus que le bien matériel qui m'entoure. Zéro pis une
barre. Moi, je suis du côté à Marc complètement. Là. Moi, c'est probablement autour de 75%. Tu vois
mais
comment
vous êtes
on dit
matérialiste.
Mais c'est pas
nécessairement.
Mais c'est même pas une question de
ça. Je pourrais dire que t'es matérialiste, c'est-à-dire que ton bonheur vient tout le temps de ce que tu vis à l'extérieur. Je suis désolé, c'est complètement...
Non, il vient de mes relations et de mes expériences et non pas de les murs qui m'entourent.
Mais quand je te dis que je suis heureux chez nous, tu penses-tu que ça veut dire que je suis en contact avec personne? J'ai exactement le même nombre de contacts que toi. Je te dis juste qu'à la fin de la journée, le fait d'habiter à cette pièce... Je suis pas en train de dire qu'il faut que le monde pense comme moi en passant, là.
Ben non, je sais.
Je te dis juste que tu m'as dit deux affaires, entre autres. Tu m'as dit, ce que tu dis là, moi, je suis d'accord avec toi. Je te dis juste que la proportion de pur bonheur qui fait que j'habite où j'habite, moi, je l'évalue très haute. Je comprends très bien qu'il y en a pour qui c'est pas le cas. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que tu vois, on n'a jamais parlé de ça. Puis, en plus, quand tu me dis, ouais, attends une minute, quand il y a quelqu'un qui est dans son 1,5, c'est tough la pandémie, quand tu recules dans le temps de ton 1,5, t'étais heureux. Moi, je te dis que si t'étais heureux dans dans où t'étais, la pandémie pogne, c'est pas vrai que là, tu fais « Oh mon Dieu, que je suis coincé comme un malade. » Parce que t'aimais déjà la place où ce que t'es. Mon point, c'est que moi, j'interpelle beaucoup plus les gens qui sont en train de gratter à dire, et tabarouette, faut que je respecte le 18,2%, puis que t'habites là, c'est chez vous. Quand tu reviens chez vous, puis t'es heureux d'être chez vous, t'imagines-tu la valeur que ça a? En plus, quand c'est en pandémie, c'est juste ça mon point.
C'est pas 33% le chiffre? Faut que ton paiement d'hypothèque plus taxes plus chauffage doit représenter pas plus de 33% de ton revenu.
Encore là, ça dépend du monde. C'est comme ça. Vous apercevez que ça fait vraiment une différence dans votre vie. Le but de la vie, c'est être heureux. Puis si plus la maison ou l'endroit que vous habitez ou le condo est beau, plus vous êtes heureux.
Mais c'est pas plus.
Je vous envie un peu parce que ça devient la vie est pas facile. Mais dans le fond, plus vous allez avoir de l'argent, plus vous allez avoir une belle maison, plus vous allez être heureux.
Non. Mais non, c'est pas non, ça. Moi, je vais mettre un bémol. Là. C'est pas plus la maison est grosse, plus elle est belle, mais c'est important que je me sente confortable dans la maison. Puis je pourrais être très malheureuse dans une grande maison, mais très heureuse dans un petit 3,5 s'il est confortable puis je m'y sens bien. Moi, si je suis pas bien chez nous, c'est vrai que mon malheur va augmenter pas mal plus vite que bien d'autres facteurs. Parce que je passe tellement de temps chez nous, de toute façon, moi, je sors pas, là. C'est, j'écoute des films, puis je dors, puis je me couche à 8 heures. Fait que imagines-tu que c'est important que je sois confortable?
Tu mettras ça dans ton message pour quand on parlait.
C'est très vendeur. Mais tu comprends, moi, c'est important que je sois confortable. C'est pas une question de valeur, c'est pas une question de prix de la maison, c'est comment je me sens à l'intérieur de cette maison-là. C'est hyper important pour moi.
OK, je
comprends. OK. On pourrait même argumenter, Sylvain, puis là, je sais pas si c'est ça, mais qu'à partir du moment, hypothèse, où tu accordes beaucoup d'importance à ton chez-toi, ça veut dire que tu as le bonheur facile. C'est-à-dire que tu es heureux en étant chez vous, ce qui n'est pas rien. Alors que si c'est l'inverse, c'est peut-être parce que il faut tout le temps justement que tu sois à l'extérieur de telle affaire. Bref, le point, c'est pas meilleur ou pire. Je suis juste curieux parce que c'était la première fois que j'abordais cette question-là, puis j'ai fait crime. Il y a manifestement des gens qui, dans une espèce de temps complètement hors norme dans lequel on est, qui étaient déjà, si tu veux, outillés à cette idée-là de confinement. Et je pense que c'est les gens qui accordent beaucoup de place à leur bonheur en étant chez eux, ils aiment où ils
aiment. Mais ça, là, aucun doute que ta question devient pertinente en temps de pandémie, puis je reconnais qu'il y a une immense injustice. D'ailleurs, c'est probablement pour ça que l'initiative de la CAQ n'était pas mauvaise. C'est là les histoires de vidéos puis de photos de ministres en train de jouer du piano, de danser, ou etc. À la base, c'était pas mauvais. En disant, regardez, on est tous dans nos maisons, on est tous poignés à se trouver des activités, fait qu'on est solidaires de vous. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui a un piano à queue,
non,
comme le ministre Jean Boulet
c'est clair,
dans son salon. C'est pas tout le monde qui peut danser comme l'autre ministre dans un salon qui est grand. C'est Lionel Carman, là. Puis regarde, je l'envie pas. Lionel Carman, c'est un médecin, si je ne m'abuse. Il est bien payé. Il doit avoir, regarde, tant mieux s'il a pu avoir ça. Sauf que de projeter ça à tout le Québec, alors que t'en as plein qui sont dans des demi-sous-sols puis des 1,5, ils font comme, excuse-moi, on vit pas la même chose.
C'est ça, surligne moi, comme la différence. Là, c'est
parce que je pense que l'inégalité au niveau du logement, des habitations, ressort beaucoup plus en temps de pandémie parce qu'on passe des heures et des heures et des heures là. Fait que c'est ça. Je pense que là, on le ressent plus. Tu veux me parler un peu en terminant de... excuse-moi, je suis pas capable de lire l'écriture à Jean-Sylvain.
Clash Génération.
Non, mais t'as juste demandé, Ellie, elle va me comprendre.
Oui.
C'est parce que...
Là que tu t'ennuies de moi, hein?
Il y a les médecins qui écrivent mal, puis il y a Jean-Simon. C'est une autre catégorie encore.
Pour vrai? Sérieux?
J'écris très, très mal, oui.
C'est l'enfer.
Ça tombe bien que les crayons sont plus vraiment à mode.
Ouais,
fait que, parce que s'il écrit mal, même avec le clavier, il faut le faire.
T'as tough à l'école. Là,
sérieux, c'est du morse. Il écrit... C'est
même pas lettre
attachée. Tu lis mieux avec les doigts.
C'est du braille. Il écrit en braille. Un mélange de braille, de morse. C'est des points.
C'est expérimental, mon affaire.
Des patentes. Donc, oui, les générations, Marc, voici.
Je voulais te parler. C'est juste... T'en as même glissé un mot tout à l'heure. Là, j'ai trouvé ça très intéressant sur une lecture que j'ai faite ce matin. Parce que... pour faire une histoire courte, vous en avez parlé, tu disais que la génération d'aujourd'hui est très offensée, surtout les milléniaux. Puis c'est pas faux aussi, hein. Puis après ça, on peut discuter des raisons pour ça, parce que tout s'explique, à un moment donné, il n'y a pas de hasard. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui a changé bout pour bout, qui est assez simple à constater, c'est que mai 68, qui a eu lieu un peu partout, mai 68 en France, ça a été une espèce de rébellion étudiante, éclair, rapide, très intense, puis qui a fait une brisure. C'est-à-dire que même l'électorat a changé, le système politique, etc., les politiciens n'en avaient que pour le résumé de tout ça, c'était une phrase, c'est « il est interdit d'interdire ».
Ouais.
Donc, c'était le clou dans le cercueil de l'époque où la religion commandait, etc. Bref, je t'apprends pas cette période-là. Et après ça, ça a été vraiment ce qui est devenu les baby-boomers, beaucoup. C'est-à-dire la génération où est-ce que à quelque part, justement, on s'est libéré. Libération sexuelle, féministe, etc. C'est tout dans ces années-là. Hein. Ça a commencé à années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et tout à coup, tu trouves que là, il y a comme ce qu'on appelle souvent les nouveaux curés. C'est-à-dire que, bizarrement, c'est des jeunes, moins de 30 ans, qui envahissent l'espace des médias sociaux, c'est une chose qu'on a discuté hier, et qui arrivent avec une nouvelle police sous prétexte de bien-pensance, bien entendu, etc. Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on est esclave de l'époque où on vit à ce point-là? C'est-à-dire que même si t'étais dans les années 60, un jeune de 20 ans qui était dans la rue en train de dire « c'est assis, on n'en peut plus », puis blablabla, puis même si aujourd'hui t'es un autre jeune de 20 ans, t'es-tu encore obligé, entre guillemets, d'adhérer à l'espèce d'air d'aller social, médiatisé, etc., où t'as ton libre arbitre de dire « ben moi, c'est drôle, mais il y a des pour, il y a des contre, etc. » Est-ce qu'on est obligé de discarter le choix individuel dans ce qu'on constate comme étant des tendances? Je veux dire, toi, trouves-tu que t'es esclave de ton âge et de ta génération?
Non, moi, je pense que... Non, mais c'est sûr, je pense qu'on peut avoir des opinions. Je comprends ta question, là, mais il reste que, concernant, appelons ça, je sais pas, pas le marché, là, j'ai pas le bon terme, là, mais l'espèce de mode ou de tendance d'offusquer, etc., puis de parler technique correct, je pense que la pression est devenue extrêmement forte de se conformer. Et ça, je pense pas que ça a rapport avec les... Oui, ça vient plus d'une génération, t'as raison, les snowflakes, tout ça, mais là, ça déteint, on en a parlé tantôt, c'est tout le monde. À un moment donné, tu sais, tu te lèves le matin, là, tu veux-tu vraiment... Faut que tu sois fait fort en maudit pour dire, moi, je donne mon opinion, puis je m'en sac que je vais me faire ramasser, tout ça. C'est pas facile. Je respecte plus... Il y a des gens, puis tu parles des fois que... Ah, moi, je veux plus me prononcer là-dessus, ça me tente pas d'embarquer sur ce sujet-là.
Absolument.
Puis pour être bien franc, ça m'arrive à moi aussi. Des fois, là, on n'embarque pas là-dedans. Je pense qu'il y aurait un bon débat à faire, je pense qu'il y a des bons arguments des deux côtés, comme tu disais, mais ça va donner quoi? Ça va donner juste la marque, juste ça. Ils sont rendus crinqués en maudit, puis là, tu dis, ouais, mais je pense que j'ai le droit, tu parlais tantôt de liberté d'expression, c'est de la merde, ça, s'il y a un concept qui... Non, non, la liberté d'expression, pour plusieurs, c'est, t'as le droit de dire tout ce que tu veux en autant que tu penses comme moi. C'est ça. Ben, la définition de la liberté d'expression pour les jeunes, ou etc., les militants, c'est « dis tout ce que tu veux, mais dis tout comme moi ». Ouais, c'est pas ça.
Moi, quelques jours après Charlie Hebdo, là, ouais, j'avais dit « check bien le vrai hashtag, c'est « je suis Charlie » quand ça donne ».
Ouais, quand ça donne.
Quand ça donne.
Ou quand et Charlie pense comme moi. Je suis Charlie. Quand il dit la même affaire que moi. Je suis pas Charlie pantoute.
Maintenant, mon hypothèse, Sylvain, pour que je puisse te dire, parce que c'est beau de faire comme des... Mon hypothèse de la période qu'on vit, par rapport aux plus jeunes, je crois littéralement, puis là, évidemment, c'est pas rien qu'un facteur, mais c'est celui que je crois qui est le plus influent, c'est autant dans le système scolaire que dans l'éducation, c'est l'enfant roi. C'est-à-dire cette propension-là que tout à coup les parents ont eue de faire attention, de coacher les jeunes, les activités à tout bout de champ, mille une options. Il faut absolument qu'ils soient formés à plein d'affaires. Idem à l'école, où est-ce que moi, je le répète, ma mère là ne fait aucune faute. Elle a l'équivalent d'un secondaire 5, mais il faisait une dictée par jour avec les sœurs. Une dictée par jour, c'est pas compliqué, comme à l'armée. Bing, bang, bang. Pas de faute. Fini, terminé. C'est pas elle fait pas que décoller de fusée, là. Bon. Ça fait que moi, ce que je pense, et pourquoi c'est arrivé ça, je vais aller au fond de mon raisonnement, pourquoi? À cause des divorces. Moi, je crois que ce qui s'est passé, c'est que insidieusement, on en est venu à des familles où il y a une compétition entre les parents de qui va avoir la meilleure appréciation de ses enfants. La job de parent, c'est pas que tes enfants trouvent que t'es une idole puis que tu voles dans les airs. Des fois, c'est ingrat, c'est de savoir dire non. D'après moi, le fond de l'entonnoir, là, la fin du sablier de ce que je pense, c'est que les parents sont en compétition, puis de déranger un enfant quand tu sais que la semaine d'après, il s'en va avec son pack-sac, puis elle, maman, va dire oui, ça fait en sorte qu'on s'est ramassé avec toute une génération de jeunes pour qui être, et là, c'est le mot clé, toi, tu dis offensé, le mot clé, c'est contrarié. Ça s'apprend l'envie d'être contrarié, ça n'existe pas auprès d'une certaine génération.
15h52, c'est pas que je voulais pas embarquer, mais plein d'affaires à dire là-dessus. Mais malheureusement, c'est déjà la fin de la chronique. Excellente chronique de Marc Boilard. Merci, Marc.
À demain.
À demain.
La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.